Bien le bonjour tout le monde, comment allez-vous? On vous souhaite un excellent début d'année. Ici Mario Langlois qui vous accueille et vous souhaite la bienvenue à notre premier épisode en 2020 de Sortie de zone. Aujourd'hui avec nous, il est en direct de Détroit, nul autre que Guillaume Lefrançois de La Presse. Salut Guillaume!
Salut Mario!
Jérémy Filosa du 98.5, salut Jérémy!
Salut Mario!
Une bonne année à vous tous, on se retrouve au lendemain d'une défaite du Canadien. Premier match de Kovalchuk dans l'uniforme du tricolore hier au Centre Bell contre les Jets de Winnipeg. Mais permettez-moi et permettez-nous d'ouvrir et de commencer le podcast d'aujourd'hui avec quelque chose qui est nécessairement positif, c'est-à-dire le résultat, le dénouement du championnat du monde de hockey junior qui nous a donné une finale d'anthologie avec le comeback, le retour de l'arrière en troisième période de l'équipe canadienne. Un des membres du personnel d'entraîneur dirigé par Dale Hunter de cette équipe, c'est nul autre que notre bon ami des amateurs de sport et maintenant, j'espère, de sortie de zone notre podcast, André Tourigny, l'entraîneur-chef des 67 d'Ottawa, adjoint Dale Hunter. Il est au bout du fil. Salut André.
Salut les boys, ça va bien?
Ça va très bien. Toi, ça doit être pas pire. Est-ce qu'on vit un petit nuage quand on vit un gros high d'émotion comme tu viens de le vivre avec l'équipe Canada, André?
Oh, c'est sûr que c'est un feeling extraordinaire. C'est un high, ça, aucun doute là-dessus. Je pense que c'est quelque chose que tu rêves de gagner une médaille d'or pour ton pays. Mais quand ça arrive, c'est sûr que c'est un rush d'adrénaline.
Tu as joué un rôle à plusieurs niveaux. On t'a vu prodiguer tes conseils aux joueurs le long du banc. Tu avais beaucoup de responsabilités. On t'a vu effectuer un arrêt crucial en pleine situation de match. On a vu les vrais réflexes d'un père de gardien de but, André Tourigny.
Oui, on a vu ben de la chance aussi. Hein?
mais c'est...
Ben André, moi, je serais curieux là-dessus. Est-ce que c'est-tu vraiment purement un réflexe ou est-ce que c'est quelque chose que tu savais depuis longtemps que ça pouvait arriver éventuellement, que tu aurais peut-être besoin éventuellement d'un jour dans ta carrière de coach là, de sauver un moment comme ça?
Mais tu sais, celui-là, il paraît bien. Mais on riait aujourd'hui parce que quand j'étais au Colorado, il est arrivé le même genre de situation dans la puck a passé au-dessus du banc, j'ai sauté pour essayer de la pogner. Mais la puck a passé à peu près 3 pieds au-dessus de ma main. Fait que quand j'ai sauté pour la pogner, j'ai eu de l'air d'un beau raisin plus que d'autres choses. Fait que, j'ai eu le temps de la voir passer. Elle s'en venait. Puis là, je regardais, je suis collé qu'elle passe au-dessus de la vitre. Là, j'ai sorti la main. J'étais chanceux plus que d'autres choses, mais là, j'étais pogné.
Un autre grand moment, André, là, c'est dans le match de la finale. Je sais pas après quel but. Je pense que c'est le but gagnant. Tu as fait une de ces stepettes. Je pense, sans faire de mouvement des pieds, je pense que tu as levé d'un ou deux pieds dans les airs, comme probablement tous les entraîneurs de l'équipe. C'était quoi le feeling lors du 4e but de l'équipe canadienne en finale?
Honnêtement, là, j'ai jumpé. Je pense que j'avais pas atterri, que j'étais déjà calme, puis j'étais déjà parce que là je savais qu'il restait 3 minutes, puis que là faut kill the clock, là, tu sais, faut le gagner.
C'était pas fini.
Non, je pense que ce qui a amené notre réaction, c'est qu'on s'attendait pas à un but sur ce jeu-là. T'sais, la rondelle, elle s'en allait rapidement. On pensait même que pas que ça soit un icing, mais que la puck se remonterait en arrière du net. Puis comme la rondelle est tombée à plat sur la glace, elle a comme breaké. Fait que moi, Dubin, je pensais jamais que Thomas y arriverait sur cette rondelle-là. Je pensais qu'elle s'en allait en arrière du net. La vie continue. Là, on est sur le forecheck. On le voit faire un move, puis il score. En même temps qu'on était content, on était surpris. Puis boum, on a jumpé. Puis comme je dis, là, je pense que je n'étais pas atterri. OK. Parce que c'est moi qui s'occupais du 5 contre 6. Fait que là, mais suite dans ma tête, c'est OK, là, ils vont enlever deux goalers. Là, c'est, faut avoir les bons gars sur la glace. Faut être prêt pour les face-offs, etc. C'est ça qui est différent quand tu coaches.
Pouvez-vous nous parler un instant de ce qui vous attendait au moment où la rondelle touche la caméra et l'arbitre tout de suite fait signe, 2 minutes, qu'il va y avoir une punition. Et là, nous, on regarde les reprises à la télé et on s'attend de voir l'image revenir et les arbitres venir s'adresser au banc d'équipe Canada pour vous expliquer qu'il y a bel et bien une punition, qu'il y a 2 minutes. Et vous êtes probablement en train de préparer la situation advenant 2 minutes de plus à équipe Canada. Et là, finalement, la séquence nous montre les arbitres se diriger vers le banc des Russes pour leur informer que finalement, il n'y aura pas de punition. Parlez-nous un petit peu de cette minute-là puis comment vous l'avez vécu.
Ben, nous autres, ben, tout de suite, premièrement, quand ça arrivait, tout de suite, on disait qu'elle avait touché. On ne savait pas que c'était la caméra. On avait vu la rondelle changer de direction. On savait qu'elle avait touché quelque chose. Ou on pensait qu'elle avait touché quelque chose. Ben, tout de suite, on a commencé à barquer, à japper tout de suite, là, ben, à dire aux arbitres qu'elle n'était pas allé direct dans les estrades. Mais là, à un moment donné, les arbitres se consultent et tout. ce qu'on a fait, on a préparé tout de suite, dans le fond, c'était le 6 contre 3.
Oui.
On a répatrié Aubin, ceux qui étaient, ce que je pensais qu'ils étaient pour être désignés pour le 6 contre 3. Puis, tu sais, on parlait de ce qu'on avait à faire, mais tu sais, je regardais le clock et je pense qu'il restait à 1:40 quelque chose. Je me disais 6 contre 3 pendant 1:40. Honnêtement, dans ma tête, je me disais, ouais, OK, mission impossible, mais peu importe. Là. Écoute, c'est quand, la fin, quand, la façon que ça se déroulait, parce que notre capitaine, il a quand même été voir, puis il avait le feeling. Il disait, après moi, on n'a pas de punition. Fait que là, on était prêts pour les deux situations, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est OK, c'est 6 contre 3 ou 6 contre 4. Là. T'sais, on n'est pas sorti de l'auberge aussi.
Mm-hmm.
Dans le sens,
non,
même
non.
Ils ont collé ça, mais c'est encore 6 contre 4. Là. C'est encore. T'sais, les Russes ils ont compté 2 buts par game dans les, je pense, les 3 derniers games avant la finale. Quand on savait que le party était dévastateur. Fait que, on était prêt pour le piquer.
Sauf qu'on a vu quand même que cet élément-là a ajouté de la frustration chez les Russes qui, ensuite de ça, ont commencé à prendre des punitions.
Ils ont perdu le contrôle.
C'est ça, exactement.
Ils sont sortis eux-mêmes.
C'est une des grosses clés de l'équipe Canada qui ont, dans toutes les situations durant ce tournoi-là d'adversité, n'ont jamais perdu le calme, jamais perdu le focus. Et tout le monde a parlé de la blessure à Laf, la blessure à Barrett Eaton. Ben, il y a eu plus que ça. Là. On a eu des gars qui. On a beaucoup de gars qui étaient malades. La semi-finale, Bo Byram n'a pas joué. Dylan Cousin et Connor McMichael n'ont pas fini le match parce qu'ils étaient malades.
Wow.
Jimmy Drysdale était malade en finale, presque pas joué. Il a fait 3-4 shifts. Toute cette adversité-là, on n'a jamais entendu de commentaires à propos de ça. Tu sais, Laf s'est blessé, les gars n'ont pas parlé. Veleno a fait suspendre, les gars n'ont pas parlé. Aiden, les gars n'ont pas dit un mot non plus. C'est comme business as usual, ce qui est pour des jeunes hommes. Là, ce qui est
c'est formidable. C'est peut-être le sentiment aussi que vous avez réussi à créer, que l'équipe ne dépendait pas juste d'un joueur. Hein, et c'est ça, une victoire d'équipe. Puis j'ai envie de te demander, André, tu commences à avoir un petit peu de millage, je veux pas te vieillir, là, mais pas mal de millage dans le hockey, à tous les niveaux. Et j'imagine que c'est un apprentissage à chaque fois, chaque nouvelle expérience t'amène quelque part dans tes réflexions. Puis j'ai envie de te demander, cette victoire au championnat du monde junior, ajoute quoi à ton bagage? Qu'est-ce que t'as appris sur la construction d'une équipe gagnante encore cette fois?
Mais tu sais, c'est t'apprends plein de choses, mais c'est toutes des petits détails, des petites choses qui t'améliorent un petit peu. Tu sais, c'est comme toi, Mario, ça fait longtemps que tu fais ton métier. C'est quand la dernière fois que tu es rentré au bureau et qu'il y a quelqu'un qui t'a dit un tip, un quelque chose,
mm-hmm.
qui t'a amélioré de 25%.
Ouais.
Ça arrive pas, là.
Ça arrive
ça fait
pas.
Assez longtemps, ça fait assez longtemps que tu fais ta job que là, tu vas prendre un conseil de quelqu'un, tu vas dire, ah, ouais, c'est bon, ça. Puis là, ça va te faire de toi un petit peu meilleur, hein?
Mm-hmm.
1%. Tu vois, là, à un moment donné, tu vas prendre un autre, quelque chose de quelqu'un d'autre. Puis là, à un moment donné, tu vas connecter les dates. Puis là, ça va t'avoir amélioré, etc., etc. Mais tu sais, là, quand ça fait plus que 20 ans que tu fais le même métier, c'est rare que tu t'arrives au bureau.
Ouais, c'est pas une découverte, un tip, c'est ça, là. Là, ouais. Là
wow, hey, je suis 50% meilleur avec ça. Là.
Non, je comprends.
Pas de même, ça marche. Tu sais, j'ai pris plein d'affaires. J'ai travaillé avec Mitch Love, il était excellent. Dale Hunter, Mark Hunter, Tyler Dietrich. Tu sais, Tyler Dietrich, c'est le vidéo coach. Il a travaillé avec Alain Vigneault, il a travaillé avec Mike Babcock, il a travaillé avec Lindy Ruff, il a travaillé avec Axel, il a travaillé avec plein de gars. Tu sais, là, il me disait, exemple, Alain Vigneault fait telle affaire ou... Ken Hitchcock fait telle affaire. Puis là, tu sais, toutes les affaires, tu dis, ah, ça c'est bon, tu prends ça, puis tu mets ça dans le bagage. Fait qu'à la fin de tout ça, t'as plein de nouveaux petits éléments, nouveaux petits trucs, une nouvelle petite façon de d'amener des choses. Mais dire, OK, il y a cet élément-là qui, aujourd'hui, là, si j'avais vraiment entendu parler de ça, puis je suis devenu meilleur. Tu sais, il y a des choses qu'exemple, Dale, il insiste dans son système, dans sa façon de jouer dans sa zone, que je dis, OK, ça c'est bon. Mais j'ai pas appris aujourd'hui comment jouer dans notre.
Non, zone, non, je là. Comprends, c'est sûr, avec tout le millage que okay. t'as.
C'est ça, c'est un bon petit point, ça. On va ajouter ça à ce qu'on fait.
Ouais. C'est un processus continu, Jérémy.
Ouais, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à l'interne de ce que vous avez vécu avec Alexis Lafrenière? Nous, on en entend beaucoup parler, mais vous avez pu le côtoyer de façon quotidienne comme joueur. Bon, il a eu des blessures aussi, mais est-ce que c'est vraiment le full package, le real deal, comme tout le monde.
Ouais.
Semble nous le dire.
Oui, c'est ce qui est le tu sais, moi, c'est ma deuxième expérience avec Laf parce que je l'ai eu au moins 18 années avant.
Oui.
Tu sais, ce qui est, puis je disais ça l'année passée, puis je suis encore plus convaincu. Ce qui est la beauté de Laf, c'est la personne qu'il est. C'est un gars qui est passionné, il est souriant, il a une bonne humeur, il aime ça jouer au hockey. Et il arrive à l'aréna, puis il est content d'être là, il est content d'être avec les boys, puis il aime ça agacer, il aime ça se faire agacer. Il amène beaucoup de vie dans une chambre de hockey. Il a une présence. Puis c'est pas une, pour lui, là, c'est une game, là. Il joue au hockey. C'est pas un fardeau là, à l'aréna. Je trouve qu'il est authentique. C'est moi, le moment clé, un des moments clés dans le tournoi, c'est pas le moment clé pour moi, c'est quand Laf est revenu de sa blessure. Si vous avez regardé le match contre la Slovaquie, là, c'est tout le monde ne veut pas que Laf. Le lendemain de sa blessure, on pensait tout que c'était fini. Là.
Oui.
On pensait que son tournoi était fini. Là, il revient au jeu, tout le monde se demande, OK, il va être comment? Son premier chiffre, vous regarderez son premier chiffre, parti du bain, il rentrait 100 000 à l'heure dans le coin. Si le gars se tassait, je pense qu'il passait au travers de la banque. Il est rentré dans le coin. Il a frappé le gars, il est revenu, il a reloadé par en avant du net, il a frappé l'autre gars dans le coin. Tu sais de quoi, là, ce premier chiffre-là, il était assez intense. Là. Il n'est pas rentré là par la porte en arrière et dit, oh, on va m'essayer, on va voir ce que ça donne.
Ça donne tout un signal, hein? Ça donne tout un signal à ton équipe, hein?
Puis, tu sais, c'est ça, là. Lui, il est arrivé, puis c'est un entier. Il est arrivé à 100 000 à l'heure, il est rentré dans le gars, puis, ah ouais, let's go, on joue, OK, ça, tu sais. Ça l'a amené après, là, que le gars qui était malade, là, bon, il était capable de jouer pareil.
Ouais.
Que l'autre qui est mal à l'épaule, là, tout le monde. Tu sais, parce que, il faut donner du crédit à Barrett Hayton que, tu sais, on lui a dit à un moment donné, là, regarde, si t'es pas capable de jouer, t'es pas capable de jouer, là, regarde, faut faire attention aussi, là, tu sais, à un moment donné, faut pas être, pas être idiot avec ces blessures-là. Il y a aucune hésitation. Il dit, non, je suis correct, je joue, là. Fait que là, Dale, il a dit, OK, on va faire jouer à l'aile, t'aider, c'est ça. Il dit, non. C'est correct, je joue au centre, puis je vais prendre les faiseurs. Il n'y avait pas de demi-mesure dans notre équipe. Tu sais, ça commence par nos leaders, puis Laf et Barrett, c'est deux gros leaders. Puis, parce que la façon que Laf est revenu au jeu, suite à sa blessure, donnait le ton à bien des choses qui sont arrivées après.
Dans ses nombreuses qualités, j'avais des discussions passionnées avec bien du monde hier pendant que j'assistais au match du Canadien, puis là, le monde essayait de déterminer, il va-t-il être meilleur qu'un tel, qu'un autre, puis les comparaisons. Mais dans les plus grandes qualités sur glace, c'est trop facile de dire, parce que pas tout le monde qui a cette qualité-là parmi les joueurs exceptionnels. Dirais-tu d'Alexis Lafrenière qui rend les autres meilleurs?
Ah, définitivement. Moi, je pense qu'il y a un instinct... il y a un instinct qui est, c'est pas juste du hockey sense, il se retrouve à des places que si tu poses sur une vidéo 2 secondes avant, qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a aucun bon sens. Puis pour aucune raison logique, la rondelle se ramasse là 2 secondes plus tard. Il y a un don. Il y a un hockey sense, il lit le jeu, il rend les autres meilleurs. Il est spécial.
Tu te déshabillerais-tu? On faisait un exercice pour le plaisir de la discussion avant les fêtes. Avant le championnat du monde, tu me vois venir. Hein? On se disait, qu'est-ce que tu serais prêt à donner pour aller chercher le premier choix du prochain repêchage? Toi, André Tourigny, tu es dans le junior, tu peux parler en toute liberté d'esprit. Là. Serais-tu prêt à donner beaucoup pour aller le chercher?
Ça tu peux pas aller chercher un gars comme ça. C'est impossible, les gars. OK, le Canadien gagne la loterie.
Okay? Ouais.
C'est eux autres qui l'ont. Là. Ils manquent les playoffs, ils gagnent la loterie. Qu'est-ce que vous allez prendre dans une transaction pour aller chercher ce gars-là?
Ben Montréal est un mauvais exemple. En plus, c'est un Québécois.
Exact, c'est ça.
Bon, OK, mettons c'est Connor McDavid. Mettons que c'est... Oublie ça, c'est Jack Eichel.
OK.
Jack Eichel. Oubliez ça. OK. Qu'est-ce que ça coûte pour que tu m'envoies
ça a pas de prix.
Ton pic?
Mais c'est pour ça que les premiers choix, ils sont rarement échangés.
Quand même, tu me dirais, m'a donné 5 premiers choix, puis mettons que c'est Ottawa, mettons que c'est les Sénateurs. M'a donné 5 premiers choix, puis mes 2 meilleurs jeunes espoirs.
Mm-hmm.
Lassie Thompson, puis trouve un autre. Là. Whatever.
Brady Kachuk, qu'on va dire, qui est déjà dans la ligue.
Ouais, c'est ça. Tu sais, tu vas-tu faire ça?
Ben, pense pas, hein?
Non, tu peux pas, parce que comment tu vas faire pour aller chercher un autre Jack Eichel après? T'as beau m'en donner 10 des choix de premier rond. C'est ma chance d'avoir un joueur d'impact.
Est-ce que tu veux dire qu'il les vaut en disant ça, André? Autrement dit, quelqu'un, mettons, quelqu'un qui serait prêt à les donner, il les vaut tout ce que tu serais prêt à donner finalement? Si j'irais juste qu'il y ait une équipe qui sera soit demi pour le, soit assez demi ou en tout cas qui considère le laisser aller?
Ben, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui va le faire. Il n'y a pas de prix pour ces gars-là parce que tu peux pas aller chercher un autre gars comme ça. Tu sais, tu peux aller chercher plein de joueurs qui entourent ton noyau. Tu peux aller chercher des Max Domi, des Jonathan Drouin. Des gars comme ça qui sont très très bons, là, des bons joueurs de hockey, là. Mais des Connor McDavid, des Austin Matthews, des Jack Eichel, des gars comme ça, des Patrick Kane, des Sidney Crosby, des Malkin, des Barkov, tu peux pas aller chercher ça, là. Ces gars-là, le seul moyen, c'est que ces gars-là veulent s'en aller.
Que là, ils ont à l'autonomie,
ouais. Après ce contrat-là, moi, je veux plus jouer ici. Mais en dehors de ça, tu peux pas aller chercher. Ces équipes-là, ils ne changeront jamais. T'sais, tu peux pas convaincre une équipe parce que tu n'es pas capable d'aller chercher des joueurs comme ça.
Dans le même esprit, André, là, tu l'as vu pendant au moins deux matchs, probablement, puis d'autres occasions quand tu observais d'autres matchs. Tu parlais du jeu de puissance. Je pense qu'il n'a pas débarqué des 3-4 dernières minutes des Russes contre vous autres en finale. Romanov, laisserais-tu convaincre de le donner dans un trade pour t'améliorer ou tu touches pas à ça non plus?
Touche pas à ça. Parce que il y a une mathématique dans la Ligue nationale que les années de contrat, c'est très important parce que ça te permet, faut qu'en quelque part dans tes mathématiques, devenir un club champion, que tu aies des gars sur les entry-level contracts. T'as pas le choix. Si tu veux gagner, ça te prend des joueurs d'impact qui sont sur le entry-level contract ou sur le bridge qui te permet d'avoir plus de bons joueurs dans ton club que ce que normalement il est permis. Parce que, tu sais, le Canadien, mettons, on regarde, là, OK, ils ont un beau futur. Ouais, mais dans 10 ans, les gars, ils ne pourront pas tous jouer ensemble, ces gars-là. Là.
Non.
Impossible. Ils ne peuvent pas, là. Fait que dites-moi pas que dans 10 ans, ils ont un bon club. C'est pas vrai, là. Ça marche. C'est pas de même, ça marche, là. Faut que dans 5-6 ans, c'est là que ça va se passer, parce que là, ils vont avoir encore des gars comme Romanov, comme Paul
Suzuki, Kotkaniemi, Paling.
Ces gars-là vont être Bridge Deal, puis peut-être qu'un gars comme Romanov va être encore sur son entry-level primo, ou tu sais, il va peut-être être encore sur un bridge ou quelque chose de même.
Puis qu'est-ce qu'il y a de spécial, Romanov, André, comme joueur?
Il patine d'une façon exceptionnelle, sans effort. Il se déplace tellement rapidement sur la glace. Deuxième des choses, il est très fort physiquement. Il a une force physique par rapport à sa grandeur et tout. Là, il est vraiment, vraiment fort. Puis il a une bonne lecture de jeu. Il prend des bonnes décisions sur la glace. Ses passes sont hard. C'est pas un gars qui est extrêmement flashé. Là. C'est pas un Eric Carlson. Là. C'est pas ça pour tout. Là. C'est un gars qui va être très efficace. On m'a demandé de le comparer. J'ai pas trouvé la bonne comparaison encore. C'est un gars qui est très dur à jouer contre défensivement parce qu'il est fort physiquement, puis il patine bien, puis il a une bonne lecture de jeu. Puis avec la POC, il fait des bons jeux aussi, il a une bonne shot. C'est pas un gars qui va être un corps arrière là,
À Markov, là, ou...
C'est la question que je me posais en regardant le tournoi. Depuis que le Canadien a repêché Romanov, dès qu'on entend des gens parler de lui, tout le monde dit tout le temps il va être bon, il va jouer, mais ce ne sera pas un grand joueur offensif. Par contre, on le regarde là, dans son groupe d'âge, puis il est quand même utilisé en avantage numérique, puis on voit des qualités offensives qui ressortent. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ces qualités-là ne ressortiront pas autant une fois chez les pros? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas ça, ces qualités dominantes, dans le fond?
C'est exactement ça. Il y a assez d'habilité pour bien jouer offensivement. C'est exemple Jeff Petrie.
Si je te dis Jeff Petrie, c'est le nom que j'allais nommer.
Il patine, il a une bonne shot, il a des bonnes mains, mais si tu es un vrai corps arrière là, dominant, non. Il est bon offensivement, c'est correct. Là. Puis il fait plein d'autres bonnes choses sur la glace. Mais Romanov, c'est un petit peu le même affaire. Et il va être.
Grande mobilité.
Grande mobilité et force physique. Aucun doute là-dessus. Donc, il va être très dur à jouer contre. Tu sais, je m'habille à soir, là, puis là, j'arrive sur Starting Lineup, puis je vois là, que le bord, il est décidé, puis je jouerai toute la game contre Romanov à soir. Là. Je me dis, oh, t'as parlé, OK, elle va être longue, celle-là. Là. Tu sais, il va être dans ma face. Là. Tu sais, ça sera pas si fun que ça. Là.
Il se présente, lui, là.
Ouais.
Guillaume, as-tu une autre question pour notre invité qu'on est sur le point de laisser filer à ses occupations, lui qui reprend le boulot avec les 67 d'Ottawa, Guillaume?
Oui, ben en fait, tantôt on a parlé, t'as évoqué Barrett Hayton. À chaque année au championnat du monde, c'est tout le temps une question qui se pose, c'est-à-dire est-ce que un joueur qui est dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, est-ce que son club devrait le libérer pour qu'il aille dans le junior? Le Canadien l'avait fait avec Victor Mété il y a 2 ans. On pose souvent la question aux joueurs, on pose souvent la question aux coachs dans la Ligue nationale, mais toi, quand t'es le coach qui est là au championnat du monde junior et que tu reçois ce joueur-là qui arrive des pros, en quoi c'est un joueur différent qui arrive chez vous? Qu'est-ce qu'il y a de différent des autres jeunes qui arrivent du hockey junior?
Moi, il arrive avec une certaine maturité, il arrive avec un calme. Je pense qu'il a côtoyé des hommes dans les derniers jours, dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Et je pense qu'il y a une approche différente. Puis moi, je pense que la confiance puis le sentiment du devoir accompli est important dans le développement d'un joueur de hockey. Je pense qu'on parle tout de l'aspect mental, mais on fait quoi pour l'aspect mental? Moi, je pense que Barrett Hayton, qui est venu au championnat mondial, qui a fini dans les 2-3 meilleurs compteurs, qui était un des meilleurs joueurs qui a gagné la médaille d'or, je pense pas qu'il retourne à Phoenix avec la même confiance que quand il est parti de Phoenix. Quand il est arrivé à notre camp, là, probablement que sa confiance ne devait pas être à son maximum. Parce que quand il joue 5, 6, 7 minutes, il chip le puck puis il bat check. Là, il est arrivé, il a fait des jeux, il a scoré des goals importants, il se sent bien, il était capitaine de son club. Moi, je pense qu'il arrive à Phoenix puis il est un meilleur joueur aujourd'hui. Puis ça a duré 2 semaines. T'sais, je pense qu'en l'espace de 2-3 semaines, tu as la chance de donner un boost à ton joueur, à ton jeune joueur, qui a besoin de cette confiance-là. Barrett Hayton, aujourd'hui, je suis convaincu que quand il se regarde dans le miroir, il se dit « Ouais, je pensais que j'étais bon, mais là, j'ai prouvé que dans mon groupe d'âge, là, je me suis prouvé à moi-même là, que je l'ai encore. » Je pense qu'aujourd'hui, il est un meilleur athlète, un meilleur joueur pour Phoenix.
Je pense que les Coyotes vont s'en féliciter. Ça sera pas tellement long. C'est un excellent commentaire. André, juste pour terminer, je reviens à toi sur un plan personnel. Tu vas t'attaquer bien sûr au reste de la saison dans la Ligue de l'Ontario, mais tu classes ça où, ce que tu viens de vivre, la conquête de l'or avec l'équipe canadienne en République tchèque, dans toutes tes expériences hockey?
C'est une bonne question, mais je pense que tout est différent. Quand tu es avec un club pour un certain nombre d'années, il n'y a rien qui est... C'est tes frères pour la vie, puis tu sais, c'est quelque chose de bien spécial. Quand tu représentes le Canada, tu te bats pour un pays entier. Tu sais, Mario, on avait à peu près 5000 partisans à tous les matchs en République tchèque, avec le gilet du Canada, passer notre gros drapeau, là, tu sais, le drapeau qui prend à peu près 15 rangées, là, qui fait le tour de la glace, là, en République tchèque. Là.
Ah, c'est solide, hein?
T'es en arrière du banc, tu te dis, OK, là, ça confirme quelque chose. On est craqué pas à peu près au Canada. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu te dis, à quel point c'est important pour tout le monde dans notre pays. Troisième des choses, à la finale de la Coupe Stanley, il y a quoi? Mettons que le Canadien joue en finale de la Coupe Stanley, il va y avoir combien de personnes vont checker la game? 3 millions?
Mm-hmm.
Nous autres, là, il y a 7-8 millions qui regardent la game. C'est du junior, là.
Ah, c'est tout le Canada qui a steppé avec vous autres, André.
Là, oui, ça, c'est certain.
Il y a en moyenne 7-8 millions de personnes qui regardent la finale de l'équipe Canada junior quand ils sont en finale là, du championnat mondial. Là. Tu sais, là, à part les Olympiques, il n'y aura rien qui va battre ça. Là. Fait que, tu sais, là, tu sens vraiment que tu peux faire de ton pays un pays fier. Puis tu sens vraiment que ça compte pour le monde. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial.
André, c'est toujours un vrai délice de t'entendre. Merci encore une fois de t'être rendu disponible pour nous au nom de toute la gang de Sortie de zone. Puis au plaisir de te reparler bientôt. Bonne fin de saison, bonne suite des choses avec ton équipe à Ottawa.
Merci boys, bye-bye.
Salut.
Merci André, au revoir.
Merci André.
André Tourigny, entraîneur-chef donc des 67 d'Ottawa, adjoint à l'entraîneur Dale Hunter avec l'équipe canadienne. Enchaînons maintenant avec les sujets que nous voulions absolument aborder dès ce début d'année, dès notre première sortie de zone 2020. Avec nous, je vous le rappelle, Jérémy Filosa, Guillaume Lefrançois. Guillaume est à Détroit. Et Simon-Olivier Lorange de la presse. Salut Simon-Olivier.
Salut Mario.
Comment vas-tu?
Ça va bien toi-même.
Ça va très bien, merci. Je te remercie. Tu sembles avoir apprécié, à la lumière de ce que j'ai lu dans ton texte ce matin, la performance. Je lance juste ça comme premier sujet, puis après ça, on pourra rebondir sur tout ce qu'on voudra, mais on peut dire que en retour des fêtes, hier, le 6 janvier, la présence de Kovalchuk piquait la curiosité de beaucoup de gens, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont rendu compte que ce gars-là est encore capable de jouer au hockey.
Ben, c'est, en ce qui me concerne, c'est une énorme surprise, c'est-à-dire de le voir jouer comme ça, c'est-à-dire, ben, je pense que tout le monde se doutait que ce gars-là peut encore jouer au hockey, mais après ça, disputer un match comme ça où il a été impliqué physiquement, où il a été de plusieurs actions, vraiment, j'ai été, je pense, comme beaucoup de monde, très impressionné par ce que Kovalchuk a apporté.
Vous autres, les gars?
Ben écoute, la première période, peut-être un petit peu plus périlleuse, il cherchait ses repères, mais ensuite de ça, j'ai trouvé que ça s'est quand même bien passé. Écoute, il était sur la patinoire pour les deux buts du Canadien. Maintenant, c'est sûr que le premier match, là, il y avait la foule derrière lui, il y avait une motivation de prouver qu'il est encore capable de jouer. Maintenant, est-ce qu'il peut garder ça sur une longue période de temps? On le sait pas. Le deux matchs en deux soirs, maintenant, ça risque d'être plus compliqué pour Kovalchuk. Mais en tout et partout, je pense qu'on peut être satisfait de ce premier match-là. Puis avec tous les gars qu'on a essayés dans les dernières semaines, honnêtement, on peut-tu faire pire?
Avant de donner mon opinion, je veux entendre celle de Guillaume et aussi par ricochet, celle de l'entraîneur des Red Wings. Parce que Guillaume, je sais que t'étais pas au match parce que t'es arrivé à Détroit un peu en avance, bien sûr, pour te préparer pour le match de ce soir. Donc, je sais que t'as regardé ça du mieux que tu pouvais là-bas, mais t'en as parlé également avec l'entraîneur.
Ouais, ben c'est ça exact. Donc Jeff Blashill, lui bien sûr qui a regardé le match aussi et qui a trouvé qu'il semblait énergisé, dans le fond revigoré, utilisez le mot que vous voulez là. Puis ben effectivement, moi de ce que j'ai vu du match, c'est la partie qui m'a vraiment le plus étonné de son jeu, c'est vraiment l'implication dans le jeu, puis des jeux comme celui qu'il a fait qui a mené au premier but de Ben Chiarot en gagnant une bataille sur le long de la bande, tout ça. C'est le bout de son jeu qui m'a vraiment surpris. On sait qu'il est gros, on sait qu'il a le gabarit pour faire des jeux-là, ce type de jeu-là, mais de le voir les exécuter comme ça, moi, c'est plus ça qui m'a étonné. C'est le genre de jeu, finalement, que Joel Armia, quand le Canadien a Joel Armia dans la formation, c'est le genre de jeu qu'Armia est capable de faire, puis là, ben Kovalchuk l'a fait, puis ben c'est deux attaquants, bien sûr, qui ont des gabarits là, qui se ressemblent.
Content d'entendre vos commentaires. Ça m'inspire, je dirais pas une envolée, mais ça fait juste, moi, pour moi, là, la vision de Kovalchuk, vous savez qu'on en a parlé il y a un bout de temps, moi j'étais pour qu'on lui donne une chance le plus rapidement possible, et je trouve juste plate, puis je comprends que les blessures Armia puis Gallagher se sont ajoutées et ont rendu cette possibilité-là difficile à éviter, quasiment obligatoire, puis c'était peut-être pas le cas aussitôt qu'il a été rendu disponible par les Kings, mais si on l'avait embauché dès lors, peut-être qu'on serait pas sur une séquence comme celle qu'on vit là, et ça fait juste confirmer que la Ligue nationale est une ligue de suiveux, et qu'à un moment donné, quand le couperet ou l'opinion publique tombe sur quelqu'un, lui, il est plus bon, il est plus capable de patiner, gang de suiveux. Puis je vais vous faire une prédiction, Kovalchuk, parce que là, les suiveux vont se rendre à l'évidence que, c'est-tu drôle, là, il était plus motivé, il était plus ça, il était encore capable de jouer au hockey. Ben, voyons voir s'il était pas capable de jouer au hockey à Los Angeles. L'environnement dans lequel t'évolues, ça a une influence. Et hier, il a dit une phrase importante, je sais pas si c'était après le match ou avant le match, il dit, j'ai senti qu'il voulait me faire confiance, j'ai le goût de le randonner. Qui fonctionne pas à motivation dans la vie, je veux dire, et tu sais, quand t'es relégué en quatrième trio, c'est clair, mais ce gars-là, non seulement est capable de jouer, puis je vais vous dire ceci, il va aller chercher de l'intérêt des autres équipes de la Ligue nationale, parce qu'ils vont le voir dans un échantillon différent, et je suis convaincu que Marc Bergevin va avoir des appels d'ici la date limite des transactions, parce que même des bonnes équipes vont se dire, hey, si Higgins-là a pu m'aider il y a quelques années à Boston, Kovalchuk, ben ouais, as-tu vu jouer Kovalchuk? Étais-tu le dernier arrivé dans le coin sa puck? Étais-tu le dernier arrivé en avant du net du carré? Non, Kovalchuk, quand il est motivé, il emmène une méchante gang dans sa poche, particulièrement dans l'alignement qu'on a là.
Écoute, j'entends tout ce que tu dis, puis je suis très content de ton enthousiasme, mais comme on dit en anglais, let's agree to disagree.
Bien sûr.
Moi, on a vu le même match hier soir. On a vu un Kovalchuk impliqué, motivé, qui jouait. Et si Kovalchuk avait joué comme ça, à cette hauteur-là, cette saison et l'année dernière, il serait pas à Montréal. Il serait à Los Angeles où il jouerait sur un des deux premiers trios. Il y avait de la place pour Ilya Kovalchuk dans l'alignement des Kings. Et l'année passée, bon, il a joué la saison presque au complet. Il y avait un rythme d'une saison d'à peu près une vingtaine de buts, une quarantaine de points. Cette saison, un peu moins. Il y a eu trois entraîneurs qui sont passés. Il a commencé sur les gros trios. Il y a eu des chances à Los Angeles. On n'est pas bon. Évidemment, on suit pas les Kings comme on suit le Canadien, mais faut pas se compter de menterie. Les Kings voulaient, avec l'argent qu'ils lui ont accordé, voulaient que ça fonctionne pour lui. Alors, c'est pas comme si on l'avait mis sur le quatrième trio la première semaine d'octobre en 2018.
C'est quoi la différence, Simon-Olivier, entre Los Angeles et Montréal?
Oui.
La motivation.
Non, mais hier, là, dans l'alignement, oubliez la séquence de défaite, tout ça, là. T'es à Montréal. Parlez-en à Alex Kovalev. Il y a des marchés pour des égos. Et je pense qu'un marché comme Montréal, malheureusement, les vedettes veulent pas venir souvent ici, sauf quand ils n'ont pas d'autre show, ils arrivent via transaction. Mais quand ils jouent, ils disent, hey, j'ai eu des frissons. Puis là, j'ai le goût de redonner des frissons. C'est ça qu'il a dit après le match hier. Puis je pense pas qu'il y a eu grand frisson à Los Angeles, parce que Kovalchuk, oui, les amateurs de hockey de Los Angeles pouvaient apprécier qui il était. Mais ici, c'est pas pareil. On était un peu déchaînés, on était émotifs. Et hier, je peux te dire qu'en fin de match, quand on le voyait vouloir créer l'égalité, tout le monde, et j'étais là avec des gens dans une loge au bénéfice de Centraide. D'ailleurs, c'était un groupe merveilleux. Je les salue, je les remercie. Tout le monde voulait qu'il fasse de quoi, parce que clairement, c'était un des gars sur la glace qui, depuis le début du match, voulait créer quelque chose. Puis moi, je pense que il y a des marchés qui vont soutirer le meilleur d'un individu. C'est ma prétention. C'est juste ma prétention.
Chose, moi, je suis prêt à ça. C'est que, tu sais, oui, l'enthousiasme de Kovalchuk, c'est une chose, mais c'est un premier match. L'enthousiasme exact. Des fans, c'est la même chose.
Ben oui.
Il y a plus d'enthousiasme maintenant parce que c'est un premier match. Mais là, on sait, le Canadien traîne la patte un peu. Ajoute quelques défaites à ça, puis l'effet de nouveauté qui s'estompe.
Oui.
Et on n'aura pas toujours, disons, la tempête parfaite, si vous me permettez, qu'on a eu hier. Alors, tu sais, puis là, ça commence d'ailleurs là, dès ce soir même à Détroit. On ne sera pas de menterie, là. Ce soir, au Little Caesars Arena, je m'attends pas à ce qu'il y ait une grande ambiance de fou pour regarder jouer les Red Wings de Détroit qui ont 10 victoires en 43 matchs. Alors, est-ce que Kovalchuk va trouver cette même énergie, cette même motivation-là dans un match là, où il y aura assurément moins d'émotions qu'à son premier match au Centre Bell? Elle est là, l'athlée. Puis, tu sais, si on regarde le joueur que Kovalchuk remplace dans la formation, Brendan Gallagher, ben c'est ça, sa grande qualité à Gallagher, c'est qu'il y a tout le temps de l'énergie, il y a tout le temps de la motivation qui est...
Moi, je pense qu'il remplace plus Armia Gallagher, là, mais...
Ouais,
dans le trio, ouais, je comprends
dans
ce que
tu veux dire.
Mais ce que tu dis n'est-il pas vrai pour Carey Price? Tu sais, si on parle de motivation puis de courbe de performance, je veux dire, est-ce que c'est pas vrai pour tout le monde? Carey Price, ses propos d'après-match hier, les gars, Simon, Olivier, t'étais dans le vestiaire, je sais pas si t'as eu l'occasion ou si vous partagez le travail.
Moi, j'étais pas proche de Carey, mais...
Mais tu sais ce qu'il a dit quand il a dit « it's beyond frustration ».
Ouais.
Ça va au-delà de la frustration. Quand on a voulu lui tirer des commentaires, il s'est pas trop... comment dirais-je... Il n'a pas trop prolongé son état. Il s'est pas trop exprimé davantage.
Souvent, là,
un peu de mots. Il a dit
plus,
que
mais...
il allait finalement se concentrer à offrir le meilleur de lui-même. Mais on a senti un découragement, un dépit.
Ouais, ben oui, c'est sûr qu'on le sent. Puis Carey, je pense qu'il commence à trouver le temps long, là. Je pense qu'il sait que cette année, encore une fois, le Canadien fera pas les séries.
Ben oui.
Ça va être une quatrième année sur cinq. Lui, il a déjà dit à
ça
la
fesse.
Fin de la dernière saison, moi, le temps commence à manquer. Tu sais, il faudrait que ce soit bientôt pour une Coupe Stanley. Donc, c'est sûr qu'il y a un découragement. Même Philippe Dano hier disait c'est plus frustrant que la première séquence de défaite parce que là on jouait vraiment mal. Il dit présentement on joue pas si mal que ça, mais on n'arrive pas à gagner des matchs. Mais c'est sûr, avec le talent qu'on a sur la patinoire, c'est pas facile. Mais tu sais, je pense que le Canadien est très bon pour créer des distractions alors que ça va pas bien. Souvenez-vous, dans la séquence de 8 défaites, on avait rappelé Caden Primeau le temps des roses juste pour parler d'autres choses que du fait que l'équipe perdait. On l'a gardé pendant une semaine. Là, c'est l'arrivée de Kovalchuk. Et puis, je me demande même si ce sera pertinent pour le Canadien de l'échanger à la date limite s'il y a une certaine valeur.
Tu parles de Kovalchuk ou Price?
Ouais, Kovalchuk. Parce que les gens...
Tu veux garder comme valeur entertainment?
Ben, c'est ça. Tu n'as pas grand-chose à te mettre sous la dent. Oh. Donc, s'il te donne un moindrement un spectacle, peut-être que tu veux le garder jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas.
Ben, moi, je pense que si le téléphone de Marc Bergevin sonne et qu'il y a un deuxième ou un troisième choix au bout de la ligne pour y Kovalchuk, l'appel ça finira même pas, que l'échange va être fini, là. C'est va être conclu. Moi, je pense que c'est y a aucun doute là-dessus, mais je suis pas contre être enthousiaste par rapport à Ilya Kovalchuk. Je veux dire, moi, c'est ma première année sur le beat. Ça s'en ligne pour être une très longue et pénible saison. Alors, si Kovalchuk donne une coupe
de
victoire au Canadien...
Bienvenue dans le club, tu fais une coupe
demain. Exactement. Les collègues commencent à me le dire, ouais, ça va être ça cette année.
Ouais, ouais.
Bon, on voit la même chose. Fait que si Kovalchuk rend la saison plus intéressante pour les amateurs et pour nous, moi, c'est sûr que je suis pour. Mais j'ai l'impression que l'enthousiasme qu'on a après un seul match, c'est le même qu'on a quand un joueur de quatrième trio a deux buts dans ses trois premiers matchs. On se dit, ça y est, c'est sa sortie. Nate Thompson a eu deux points après trois matchs cette année. Et c'est pas vraiment lui qui tire le club offensivement présentement.
Moi, c'est pas de l'enthousiasme par rapport à ce qui va changer chez le Canadien, pour préciser ma pensée à la suite de mon énoncé de tantôt. C'est juste te dire que tout le monde est suiveux, dans le sens que, avant de le voir jouer, tout le monde l'a condamné. Puis là, tout le monde dit « Ah ouais, finalement, il est bon. » Ben c'est ça. Pis c'est souvent ça. Et le gars est capable de jouer au hockey. C'est tout ce que je dis. Mon enthousiasme par rapport à ce qu'il peut faire chez le Canadien, garde. Tu sais, il peut jouer au hockey, ce gars-là, c'est clair. Tu n'as pas besoin d'être Einstein. Là. C'est pas la théorie de la relativité. Là. C'est du hockey. C'est tu patines-tu, back check, forward check. Puis, veux dire, il est tout capable de faire ça.
À un moment donné,
Faire de quoi avec la rondelle. Puis, il est capable d'aider une bonne équipe avec une bonne structure.
Ouais,
le monde qui disait, encore une fois, c'est comme j'entendais du monde commenter l'avenue du Candela en disant, ah, c'est pas un joueur robuste parce que là, regardait les minutes de punition, on disait, ah, il y a juste tant de minutes de punition. Ben oui, c'est qui le joueur le plus puni chez le Canadien? C'est Thomas Tatar. C'est-tu notre joueur le plus robuste? Tu sais, il y a des fois, il y a des analyses à Saint-Saëns.
Mais tu sais, à un moment donné, il va tomber lui aussi dans sa routine de, tu sais, le Canadien éventuellement va se retrouver dans une situation où ils vont jouer des matchs, mais pour finir l'année, est-ce que justement la motivation va toujours continuer d'être là? Je ne sais pas, on verra. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, avec tous les gars qu'on a essayé cette année, là, je veux dire, Dale Weiss, le Sphinxman qui est là, puis je ne sais pas s'il va retourner bientôt, mais vas-y avec Kovalchuk. Kovalchuk est le joueur du Canadien le moins payé présentement à 700 000 $. Il n'y a personne qui fait moins que lui. Ben, écoute, tant qu'à ça.
Il y a 65 millions de gains en LNH en carrière quand même. Guillaume, c'est quoi la question qui te brûle les lèvres, toi, en ce moment, par rapport à la suite des choses chez le Canadien? On entreprend la deuxième moitié de saison. On vit une séquence vraiment cruelle. Comme Simon Olivier vient de le dire, on se rend pas mal tous à l'évidence qu'à moins d'un miracle, ça va être une fin de saison potentiellement pénible. Inspirante, on en doute en ce moment. Comment t'entrevois la suite des choses? C'est quoi les questions qui t'occupent l'esprit?
Moi, c'est deux noms, c'est Thomas Tatar puis Jeff Petrie. Je pense que c'est les deux joueurs. Tu sais, bon, on a évoqué là, bon, Kovalchuk, est-ce qu'il y aura une possibilité de l'échanger, peut-être éventuellement, on verra. Mais bon, ça sera un joueur de location. Mais Tatar et Jeff Petrie, c'est deux joueurs qui eux sont dans les bonnes années de leur carrière, mais en même temps, il leur reste pas non plus sept bonnes années devant eux, on s'entend. Donc, comment Marc Bergevin va gérer ces deux cas-là? Parce que ce sont des joueurs que attendons-nous là, si le Canadien veut gagner dès la prochaine. Puis je suis sûr que l'équipe voit comme un objectif de participer aux séries l'an prochain. Ben c'est deux gars qui vont les aider assurément à faire ça. Mais d'un autre côté, ben si tu veux, continuer à que ce soit renflouer la banque d'espoir ou du moins c'est une offre que tu ne peux pas refuser. Ben c'est sûr que c'est le genre de joueur à qui tu dois penser parce que là, ben après ça arrive 2021, arrive la fin de ces contrats-là. Puis ben c'est sûr que rendu en 2021, il n'y a rien qui dit que ces gars-là, tu vas leur redonner un autre contrat. Donc, si t'es pour les perdre, ben c'est peut-être en ce moment que leur valeur est la plus élevée.
C'est un excellent point de discussion. Les gars, je vous laisse renchérir là-dessus.
Moi, je pense pas que c'est des gars qui partent tout de suite. Je pense que le Canadien n'a pas encore abandonné sur l'idée de possiblement participer aux séries pour la saison prochaine. Puis c'est des gars qui sont encore compétitifs. C'est des gars qui sont encore capables. Tu sais, t'as besoin quand même d'un noyau de vétérans, mais qui sont pas si vieux que ça, puis qui continuent de t'aider. Ces gars-là, c'est des gars qui aident aussi les plus jeunes. Donc, je pense pas que c'est des gars qui vont partir à la date limite. Je serais très surpris.
De mon côté, je serais également surpris qu'ils partent, pas parce que c'est pas le bon moment, parce que honnêtement, si le Canadien continue de penser qu'ils vont faire les séries à l'heure où on se parle, je sais pas à qui ils mentent, mais je trouve ça un peu triste.
Ben non, pour cette année, on oublie ça.
Mais moi, c'est surtout que ça ressemble pas à Marc Bergevin de faire une transaction majeure en pleine saison comme ça. C'est à la date limite des transactions, Bergevin, tu sais, bon, c'est celui qui est allé chercher Vanek, c'est celui qui buy low, qui achète pas cher, Bergevin, mais il a jamais été vraiment un vendeur, Bergevin, et tu sais, il est allé chercher justement Petrie à date limite des transactions à bas prix, mais ce serait vraiment la première fois que en cours de saison, Bergevin irait d'un coup d'éclat, par exemple, en envoyant Petrie je ne sais où pour un choix de premier tour et un espoir, quelque chose comme ça.
Ta prémisse est intéressante en ce sens qu'à un moment donné, c'est sûr qu'on pense qu'on connaît le DG selon les comportements qu'il a adoptés en différentes situations, mais j'ai envie de vous demander, et Simon, Olivier, je peux recommencer par toi, est-ce que, je pense que c'est important, là, ce que le Canadien est en train de vivre actuellement, est-ce qu'on peut comparer ça aux autres années, parce que c'est une quatrième année en cinq qui manque les séries. Est-ce qu'on entre dans un autre territoire, là? Est-ce que là, il faut regarder les choses différemment ou c'est juste la suite d'une longue reconstruction en attendant d'ajouter les briques qui vont faire que les murs vont se tenir debout? Est-ce qu'il faut tenir compte du contexte pour analyser ce qui doit être fait ou...
moi, je suis pas sous l'impression que Bergevin cherche à faire un coup de circuit cette année. Cela dit, si on voulait jouer sur les mots, il a dit qu'il sacrifierait pas son avenir pour améliorer son club. Est-ce que Tatar et Petri, c'est son avenir?
Il ouvrait la porte à quoi, tu penses?
C'est ça, exactement.
T'as-tu senti qu'il ouvrait la porte plus que d'habitude?
Moi, j'ai pas senti que la porte était ouverte. Bergevin, c'est pas un DG qui, bon, peut-être à part Piqué-Souben, là, qui a énormément surpris depuis qu'il est là. Surtout, comme je disais, en cours de saison. Peut-être que cette année, il pourrait briser avec la tradition si Petri ou Tatar ou peut-être un autre.
Est-ce que l'organisation du Canadien, je vous pose la question, vous tous les gars, est-ce que le Canadien a besoin d'un coup d'éclat, Jérémy? Ou tu vois pas ça comme ça, puis on a besoin de patience?
Non, mais t'aurais besoin d'un coup d'éclat à un moment donné pour donner quelque chose à tes partisans, parce que là, les gens ont été très patients. Puis moi, ce qui me surprend de toute la situation, écoutez, des équipes qui passent par une reconstruction, là, ça arrive dans toutes les ligues, dans toutes les équipes. Okay? Une période où tu fais pas les séries pendant 4-5 ans, c'est normal. Mais il faut que ça vienne à la fin d'un cycle. Tu sais, t'arrives à la fin d'un cycle où tes joueurs sont un peu vieillissants, t'as des gars qui goûtent trop cher, t'es obligé d'échanger une couple de gars, il y a une couple de gars qui prennent leur retraite, puis là, tu repars à zéro. Comme les Red Wings sont en train de faire présentement, les Sénateurs aussi, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est qu'à Montréal, quand ce cycle-là a commencé, des 4 années sur 5 où tu fais pas les playoffs, ça arrive à un moment où tu penses, et on pense tous, qu'on rentre dans une fenêtre pour potentiellement gagner.
Et ça arrive à d'autres équipes aussi. Los Angeles l'a vécu. Chicago pensait qu'ils pouvaient encore gagner
mais
avec
Los Angeles.
Nashville sont en train de le vivre. Ils viennent de congédier leur coach.
OK, Nashville, c'est un bon exemple. Nashville, c'est un bon exemple où t'arrives dans une possibilité où tu dis, on a une fenêtre, là. La fenêtre, elle s'ouvre pour nous. Notre moyenne dans notre noyau est à peu près 25-26 ans. On a un petit peu de place à masse salariale. On peut ajouter des morceaux. On a des bons jeunes. On a tout ce qui semble être ce qu'on a de besoin pour potentiellement rentrer dans une fenêtre pour gagner une coupe. Et là, tu tombes, bang, dans 4 années sur 5 où tu fais pas les playoffs. Où... Si, Mario, je t'avais dit, là, après l'élimination du Canadien contre les Rangers... On recule de ça. Il y a 5 ans, en finale de conférence, on fera pas les playoffs 4 des 5 prochaines années. Bon, on va faire une ronde, tu m'aurais dit, jamais de la vie. C'est impossible. On s'en va dans la bonne direction. Donc, c'est ça qui est frustrant et décevant, je trouve.
Alors, pour être décevant, c'est sûr que c'est décevant. Mais en même temps, je vous écoute, puis ça nous envoie dans toutes sortes de pensées. Puis des fois, je me dis, si le DG du Canadien, depuis 2 ans, avait fait les mêmes affaires, puis c'est juste pour être le plus neutre possible, là, pas parce que j'essaie de plaider une cause ou quoi que ce soit. Mettons qu'il s'appelle Marc Lefrançois. Il a fait les mêmes moves, mais lui, il a encore des airs loose parce que ça fait pas 8 ans qu'il est en ville. Tu sais, comme le monde sont pas tannés d'y voir la face. C'est juste une tête différente. Est-ce qu'on serait patient d'attendre qu'il aille au bout de sa démarche ou on voudrait réclamer sa tête?
Ben, c'est juste normal parce qu'on se dit, normalement, tu veux donner à un DG une période d'à peu près 5 ans. Fait que là, on est rendu là. On est rendu même plus loin que cela. Tu sais, je te dirais que, te souviens-tu de la période noire du Canadien du début des années 2000?
Oui.
C'était une période noire, mais
3 années de suite.
Mais c'était une période noire obligatoire. T'es rentré dans un trou, t'étais dans une véritable reconstruction, et de cette reconstruction-là, sont sortis plusieurs bons joueurs qui t'ont permis d'amener le noyau que t'avais au début de cette décennie-ci. Mais celle-ci, il y a personne qui s'y attendait.
Mais un coup d'éclat, les gars, si on approfondit ça un peu, ça serait quoi le coup d'éclat que vous feriez, vous autres, si c'est d'un bottine de Marc Bergevin qui va être bonne pour l'organisation? C'est quoi le coup d'éclat? Ou Jeff Molson, c'est Jeff Molson qui a le fait, Guillaume?
Ben, j'ai de la misère à dire que je le ferais parce que il y a beaucoup aussi de pour et de contre, mais je pense que la plus grande carte, si on veut, que Bergevin a dans son jeu pour un coup d'éclat, ben c'est Carey Price. Si on parle d'un coup d'éclat, là, je parlais de Jeff Petrie et Thomas Tatar tantôt, c'est pas ce que j'appellerais des coups d'éclat, là. Bon, c'est des grosses transactions, mais un coup d'éclat comme par exemple échanger Subban contre Weber, ben c'est ça. La carte qu'il y a dans son jeu, c'est Carey Price. On sait tous que le développement de Caden Primeau va peut-être éventuellement mener vers ça. On sait tous que l'expansion en 2021, l'arrivée de Seattle, ça va ajouter un facteur de plus vers ça. Donc, s'il y a un coup d'éclat, disons à moyen terme, que je vois venir, ça serait ça, mais je précise à moyen terme, parce que je pense que cette année, cette saison, cet été, la saison prochaine, je pense que Carey Price reste à Montréal, puis il n'y a pas de changement là. À moins qu'il soit réellement au-delà du point de frustration position-là, comme il l'a dit.
Ben, ça, c'est important.
Au point de vouloir aller ailleurs. Mais sinon, disons que c'est ça. Dans un moyen terme, ça serait ça que je veux
dire. Hier soir, j'étais au Centre Bell. Le match vient de se terminer. Moi, je suis dans la salle des journalistes. On attend, là, on regarde la fin du match à l'écran. On attend pour aller s'installer au vestiaire. Je sors de cette petite salle-là et j'aperçois Geoff Molson qui, lui, était derrière un rideau. Et regardait lui aussi la fin du match. Et la seconde que la game est finie, il s'est retourné de bord, puis il est parti. Puis dans son non verbal, là, il n'avait pas de l'air de bonne humeur. Comme on dit en bon québécois, il a sacré son camp. Écoute, il était pas de bonne humeur.
Mais c'est important, c'est lui qui mène l'organisation. Fait que lui, son état d'esprit, puis lui, il s'attendait à quoi cette année? Est-ce qu'il achetait l'idée que c'est un club vraiment qui va faire les séries? Mais en même temps, je pense qu'il y avait un certain réalisme, parce qu'il a aussi dit, je pense, à Sportsnet, que d'ici 3-8 ans, l'équipe va atteindre un moment fort de son existence. Mais ce qu'il a dans la tête, c'est important pour la suite des choses.
Mais moi, c'est un élément important, intéressant que tu lèves, parce que je comprends pas l'évaluation que la direction a faite de cette équipe-là et fait encore. C'est-à-dire qu'en début de saison, de dire que ça va être une équipe compétitive, tout ça, alors qu'il avait fait essentiellement aucune modification à l'alignement de l'année dernière, c'était le départ d'Andrew Shaw. On ne savait pas encore que Nick Suzuki offrirait ce qu'il offre présentement. Il disait, OK, ça va être une équipe compétitive qui va pouvoir faire les séries. Et Marc Bergevin qui nous disait le 3 janvier, on veut encore faire les séries, on pense qu'on est encore là. Je saisis pas c'est quoi l'identité qu'il croit avoir pour cette équipe-là, parce que, ben oui, il y a des blessés, puis effectivement, c'est des joueurs clés, mais on avait l'exemple flagrant en fin de semaine à Montréal, les Penguins de Pittsburgh, des blessés, il y en a beaucoup, des joueurs importants, c'est Nick Crosby, je sais pas si ça vous dit quelque chose, et il gagne quand même, et le Canadien ne gagne pas.
Ben, c'est une bonne question, mais on est-tu capable de faire un tour de table vite, sans aller dans les grandes analyses, pourquoi ça déraille cette année? Est-ce que parce que je pense qu'il faut t'identifier pourquoi, mettons, si tu penses que... Moi, je pense que le Canadien avait une chance de faire les séries, là, c'est sûr qu'on va le dire moins fort, mais qu'est-ce qui fait que ça a déraillé? Moi, c'est sûr, puis je dis pas qu'il est la raison, mais Carey Price, Guillaume l'a amené comme peut-être élément potentiel d'un coup d'éclat, ne garde pas le filet, à mon avis, comme il le devrait, mais je vais quand même lui donner ceci, qu'en avant de lui, des fois, sa fiche est le reflet du genre de défensive et du nombre de surnombres qu'on a accordé. Je trouve que c'est très difficile d'analyser son travail dans le contexte de cette année. Mais quand tu regardes le pourcentage d'efficacité d'un Tristan Fleury avec les Penguins de Pittsburgh, tu dis, ben écoute, est-ce qu'il est à ce point mieux protégé par les Penguins sur les surnombres? On regarde moins attentivement les Penguins que le Canadien, mais clairement, un gardien qui a un fort pourcentage d'efficacité va aider son club. Fait que lui, c'est sûr. Est-ce que de faire jouer les recrues autant qu'on les fait jouer, ça a coûté combien de victoires à l'équipe cette année? Est-ce que c'est un élément?
Ben, c'est sûr que c'est un élément.
Oui, les recrues ont coûté des victoires, mais je te confirme que si Christian Follin ou Mike Riley avaient joué à la place d'Eden Fleury, je pense qu'il y aurait aussi...
Ça aurait pas été mieux.
Il y aurait aussi du sang sur les mains, si je peux permettre l'expression. Moi, le facteur que j'identifie, c'est beaucoup plus les blessés. Pourquoi? Parce que je pense que le Canadien l'an passé avait été épargné, mais le Canadien de l'an passé, c'est comme cette année, c'est une équipe pour qui il fallait que tous les as soient alignés pour être simplement en lutte pour les séries.
Exact.
L'an passé, on peut dire que les astres avaient été alignés. L'équipe, l'année passée, avait raté 160 matchs sur blessure. Là-dessus, tu avais des matchs de David Schlemko et tu avais également Yoel Armia, mais le Yoel Armia de l'an passé. Là, cette année, tu es déjà rendu à 100 matchs ratés sur blessure, donc il va y en avoir plus que l'an passé, il va y en avoir plus que les 160. Et ben, tu as le Yoel Armia de cette année qui a manqué des matchs là-dedans. Tu as Jonathan Drouin aussi. Donc, tu sais, il y a quand même, je pense que de ce côté-là, il y a des
attentions. Ouais, Canadien bataillait pour une place en série jusqu'à ce que Drouin et Byron tombent au combat. Puis je sais que les gens disent, ouais, Byron connaissait pas un bon début de saison. Ben justement, il était blessé, il jouait pas à 100%, donc on le reconnaissait pas. Mais les blessés ont un gros mot à dire sur le déraillement. T'sais, on disait du Canadien que c'est une équipe qui peut batailler pour une place en série. Oui, mais quand tu perds quatre attaquants qui jouent normalement sur tes trois premières lignes, ben là, c'est ça, tu commences à couler. Puis les gars ne peuvent pas prendre toute la charge qu'on leur met sur les épaules. Les jeunes, les joueurs qui viennent de Laval, qui n'ont pas l'expérience ou le talent ou la capacité de le faire. Donc, il y a de la malchance aussi là, chez le Canadien cette année, c'est sûr.
Ben tout à fait. Puis en fait, puis on en a déjà parlé même à ce micro-ci, mais au-delà des blessés, il y a, tu l'as dit, Jérémy, à Laval. Quand il y a des blessés, c'est souvent c'est une occasion pour d'autres joueurs. Bon, cette année, Suzuki, ça n'y a pas. L'occasion n'est pas arrivée par les blessés. C'est vraiment il s'est démarqué au camp puis il a fait l'équipe. Mais quand les joueurs se mettent en beau combat, oh là là, c'est pas très impressionnant ce qu'on a vu d'arriver de Laval. J'ai beaucoup de respect pour Delouis, qui travaille extrêmement fort, mais c'est pas un joueur qui appartient encore à la Ligue nationale.
Non. C'est plate que tu vois un Hudon qui performe à Laval. Puis si moindrement il t'en avait donné un petit peu lorsqu'il a été rappelé, ça aurait pu. Ça aurait pu t'aider. Ça aurait pu, à ce moment-là, où t'avais pas Byron, t'avais pas Drouin, ça aurait pu te donner un petit quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné.
Non, ça n'a pas fonctionné. Puis peut-être qu'avec l'expansion, ça lui donnera une nouvelle opportunité, mais ouais. Faut que tu la saisisses quand elle passe, ta chance. Mais donc, on s'entend pour dire que, en tout cas, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche. Moi, j'amène Price aurait pu peut-être être un peu meilleur. Mais en même temps, c'est le gardien le plus utilisé. Et au lieu de cibler sur Price, j'ai envie de dire l'affaire que Marc Bergevin a encore, à mon avis, sous-estimé cette année, c'est l'importance, pas d'un auxiliaire pantouf à Carey Price, l'importance d'avoir un gars stimulant pour Carey Price qui est capable de gagner des matchs. Les Islanders ont remplacé Robin Lehner cette année par Varlamov qui est avec Rice. Ils ont encore un duo efficace avec un système assez hermétique en avant. La preuve est faite. Fait que je pense qu'on a encore négligé ça et je te dis pas d'amener Primo tout de suite dans la Ligue nationale. Je suis même pas sûr qu'il est assez équipé pour faire cette lutte-là. Ça veut dire, sors tes bidoux, va chercher Corey Crawford comme auxiliaire ou un autre, puis amène un duo puis des gars qui se partagent la tâche. Parce que imagine Carey Price, on peut comprendre un petit peu son désarroi, son découragement. Il a joué toutes les minutes possibles pour qu'on puisse croire que ce gars-là, on va l'utiliser. T'sais, on peut pas parler d'un gars qu'on repose cette année. Là. C'est lui qui a le plus de minutes dans la ligue. Ça fait pas la différence.
Mais non,
fait, c'est décourageant.
Il l'avait dit lui-même là, en conférence de presse, il y a de ça un mois et demi, il faut trouver un moyen de donner plus de repos à Carey Price.
Ben, trouver un moyen, c'est d'embaucher un gardien de but qui a de l'allure puis qui a fait ses preuves. Tu veux gagner.
Je pense à l'exemple de Boston. Puis le Boston, on peut pas comparer les deux équipes, mais quand même, c'est une équipe qui évolue depuis quelques années
duo.
À deux gardiens.
C'est à l'acte, un pourcentage, je pense, à matin, 9,28 autour de ça, en haut de 925.
Si Tukaras se blesse pendant 2-3 semaines, c'est pas la fin du monde. Ils peuvent survivre.
Mais moi, je voulais juste conclure notre discussion. T'as ajouté Guillaume, excuse.
Oui, j'allais juste ajouter que Tukaras, en plus, lui en bénéficie. Oui. 923 cette année. C'est quand même... Il connaît une de ses très bonnes saisons là depuis longtemps. Et puis, ben c'est sûr que le fait d'avoir un numéro 2, je reprends ton expression, Mario, un numéro 2 stimulant, c'est sûr que ça joue.
Tu sais, puis une autre chose dans les éléments qui expliquent le déraillement, est-ce que quelqu'un peut trouver une raison valable pour constater le fait que le Canadien est la troisième pire fiche à domicile de toute la Ligue nationale. Deux équipes ont remporté moins de matchs à domicile que le Canadien. Détroit, d'ailleurs, contre le Canadien ce soir. Et les Devils du New Jersey, 8 victoires à domicile. Ouais. C'est inacceptable. Parce que il y a bien des équipes qui manquent les séries, mais qui réussissent à combler un peu le plaisir de leurs partisans quand ils jouent à domicile.
Mais en début de saison, c'était pas si pire que ça. Même les samedis soirs, ils étaient imbattables au Centre Bell.
Ça a été court, le début de saison, parce qu'ils n'ont gagné 8.
La seule logique, là, parce qu'on sait qu'on a on a l'avantage du dernier changement lorsqu'on joue à domicile, c'est que nos joueurs, quand on les match-up contre les gars qu'on veut avoir des match-up de l'équipe adverse, sont pas assez bons pour profiter des pires trios adverses. C'est ça la réalité. Je veux dire, il y a pas d'autre raisonnement, il y a pas d'autre logique. C'est tout simplement ça. Et...
Fait que Price meilleur, peut-être un meilleur deuxième qui était pas là au début de l'année, moins de blessures.
Ben moi aussi, j'ai l'impression qu'on a été cette saison extrêmement indulgent envers la défense. C'est-à-dire que, bon, c'est sûr, encore une fois, on l'a tous vu, le Price a peut-être pas la saison qu'il voudrait. Le Canadien marque des buts à profusion à 5-5. Il n'y a pas de ce côté, ben peut-être pas ces jours-ci, mais le Canadien n'a pas de misère avec son attaque cette année. Julien l'a répété souvent. Mais la défense, forcément, a ses responsabilités à prendre là-dedans. Et si on décortiquait chaque poste en défense, peut-être qu'on s'apercevrait qu'il y a des gars là-dedans qui sont mal castés, si on prête l'expression. Marcus Scandella a joué 23 minutes hier soir. En début de match, c'était extrêmement laborieux pour Scandella. Ses 5 premières minutes, c'était une catastrophe. Avec Jeff Petrie, je sais pas si c'est une bonne combinaison. Mété, cette saison, bon, évidemment, il a été blessé. Depuis qu'il est revenu de sa blessure, c'est pas extrêmement impressionnant. impressionnant. Ben Sherrod, on s'est posé la question quelques fois, est-ce que c'est un gars de première paire? On n'est pas sûr. Jeff Petrie, pour un gars qui a tout ce temps de jeu-là et toutes ces occasions-là en avantage numérique à force d'égard, encore 25 minutes hier soir, est-ce qu'il en donne autant dont on pourrait s'attendre? Je pense que
Ces gars-là essaient d'en faire plus pour combler le manque. Tu sais, Jeff Petrie, là, y a-tu quelqu'un qui a apporté plus souvent que lui, plus de secondes que lui dans un match? Puis je vais le défendre un peu. C'est un joueur que j'aime, mais je constate qu'il y a des ratés, là. C'est sûr qu'on voit qu'il y a des matchs plus difficiles que d'autres. Mais qui n'en a pas eu? Et ces gars-là, tu sais, tu vis ta deuxième séquence catastrophe de l'année. Fait que t'es un gars comme Petrie, Weber, tout ça, ou Price. Je pense que t'essaies t'as de la misère à compter des buts. Lui, il sait qu'il n'y a pas grand monde qui monte le puck. Puis quand t'as à puck, ben, tu risques de faire plus d'erreurs que quelqu'un qui y touche pas. On s'entend pour dire qu'il touche à puck plus souvent que la moyenne des mortels. Mais oui, il est plus exposé, il fait plus d'erreurs.
T'as eu des séquences où t'avais ton dernier duo de défenseurs qui jouait à peu près pas, donc écoute, il y a des Weber qui a joué des 30 minutes et plus en début de saison, puis à un moment donné, ça va finir par rattraper encore plus ces gars-là. Puis c'est la même chose en attaque, il y a eu des gars qui ont joué hier ou samedi, je me souviens plus, 5 minutes, 6 minutes, là, des attaquants. C'est pas suffisant, ça veut dire que tu surtaxes des gars qui en ont déjà trop sur les épaules, donc ça devient...
Les gars, on approche l'heure, mais quelques petites en rafale, je peux pas m'empêcher. Ça fait quand même 2 semaines qu'on s'est pas parlé, puis les sujets sont nombreux. Selon vous, est-ce que le poste de Claude Julien pourrait être en danger d'ici la fin de l'année?
Pas tout de suite, mais je pense que à la fin de l'année, si le Canadien rate les séries, c'est pas impossible qu'on se penche là-dessus.
Moi, je pense que Claude Julien, il va être en danger si Marc Bergevin devient en danger ou si Marc Bergevin devait quitter.
Tu parles d'un grand ménage?
Moi, si, je pense que Claude Julien pourrait être victime d'un grand ménage, mais je vous le vois pas quitter, en tout cas pas pendant la saison.
Pas par une décision de Marc Bergevin.
Exactement.
Okay. Toi, Guillaume?
Ben, je me rallie à Simon Olivier, effectivement. Je pense pas que Marc Bergevin va congédier Claude Julien. Par contre, ce que j'espère, si Jeff Molson décide de congédier Marc Bergevin, ce que j'espère, c'est qu'il laisse son successeur décider de s'il garde Claude Julien ou pas. Parce que ça veut pas dire, tu sais, leur successeur va être nommé. Oui, en général, un nouveau DG va amener son propre choix là, comme entraîneur, mais ça se peut aussi qu'il se garde les options ouvertes et ça se peut qu'il constate que Claude Julien, à mon avis, sort le meilleur, je l'ai souvent dit, sort le meilleur d'un groupe qui a un talent assez...
Moi, je pense que Julien fait... J'ai de la misère à être critiqué là, avec ce qu'on voit cette année, honnêtement.
Surtout
je pense
avec
qu'il
les blessures.
Puis dans le cas de Bergevin, si son propriétaire achète l'idée que le meilleur est à venir, comme il l'a déjà dit dans une déclaration publique, je vois pas pourquoi il viendrait le lyncher ou le congédier, à moins que la pression de ses partenaires d'affaires, actionnaires, diffuseurs, puis tout ça, à un moment donné, dit. Et je reviens à la notion de coup d'éclat, et terminons avec ça. Est-ce que le Canadien a besoin d'un coup d'éclat pour, tu dis que sont des arts de la distraction, oui. Ici et là, bon, puis oui, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, mais il reste qu'il faut que tu continues de faire avancer ton projet de il faut peut-être, enfin, là, tu sais quoi, en résumé, j'ai envie de dire, ils ont le courage de faire ce qu'ils n'ont pas le courage de dire qu'ils font. Parce que ils prennent des décisions pour rajeunir l'équipe, mais ils veulent jamais mettre les mots dans la bouche, en guillemets, pour dire c'est ça qu'on fait. Puis, je les rejoins un peu. Est-ce que c'est-tu un aveu d'échec de dire on est officiellement reconstruction? On veut dire, y a-tu quelqu'un qui a besoin d'un exemple supplémentaire? Je veux pas refaire les discussions qu'on a déjà eues. Regardez les gars d'en bas de 22 ans qui sont dans l'alignement. Pour moi, puis c'est pas parce que t'as des vétérans comme Weber et Price, pour moi, et Petrie, que ça empêche l'idée que tu puisses vivre une reconstruction. Parce que tout le monde... Chicago reconstruit autour de Kane, Taze, Keith jusqu'à preuve du contraire. Puis tu y vas avec des éléments de colonne vertébrale. T'as pas le choix. Si tu liquides tout, ben tu fais comme les Oilers d'Edmonton. Puis tu cherches encore une identité qui est en train de se bâtir autour de McDavid, mais à quel prix, puis depuis combien de temps? Fait que, tu sais, Jeff Molson, moi, je pense que c'est ça. Il va peut-être falloir qu'il arrime le discours public avec la réalité, parce que je peux pas croire qu'eux autres, ils voient pas la réalité, parce que s'ils la voient pas, et qu'ils voient leur club plus gros, comme peut-être, je sais pas si tu sous-entendais ça tantôt, c'est quoi l'évaluation qu'ils font de ce club-là?
Mais j'aimerais ça, moi, avoir, tu sais, puis on en a parlé souvent, mais avoir une autre tête hockey entre Jeff Molson et Marc Bergevin.
Ça va prendre un vent d'air frais quelque part, en tout cas. Puis moi, je ne discarte pas l'idée de Guillaume échanger Carey Price. Je suis sûr, pas un prérequis certain... parce qu'on n'a pas toute l'info, les gars. Il faut vraiment... On est obligé de spéculer sur des hypothèses. Le DG les a toutes les infos. Lui, penses-tu que son goaler, là, il est inspirant pour son club? Est-ce qu'il pense que son gardien de but va déteindre positivement sur ces jeunes-là pendant les 3 prochaines années? Si la réponse est oui, ben là, tu sais, c'est une autre affaire.
Considère qu'il y a des options. Je suis certain que si on s'assoyait avec lui et on lui disait, fais-nous une shortlist, là, t'es-tu prêt? Je pense qu'il dirait, je suis prêt à écouter.
Moi, je pense que chez le Canadien, tout le monde est un peu attaché au plan de Bergevin, dans le fond, de dire, bon, ben c'est fou, la proverbiale patience, on attend Caulfield, on attend Romanov, on attend les jeunes qui sont présentement là se développent encore, et tout le monde va vivre et mourir avec ça. Puis je pense que Bergevin, est-ce que je sais pas si Molson va être patient encore avec lui, mais j'ai bien l'impression que c'est sa dernière chance, parce que le plan a changé quelques fois, et là, son plan, il a été extrêmement clair de ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il allait faire.
Et faire jouer des jeunes,
c'est ce qu'il fait présentement. Et je pense que l'éclosion de Caulfield, peut-être dès l'année prochaine, peut-être dès la fin de cette saison, l'arrivée de Romanov, ça va être sa passe ou sa casse. Moi, c'est un peu mon impression pour dans le cas de Bergevin, en tout cas.
Donc, tu constates qu'ils sont en pleine reconstruction.
Ben oui, il y a pas de doute.
Bon, parfait. Donc, pour ceux qui se mettent encore la tête dans le sable par rapport à ça, le mot de la fin, Guillaume?
Je peux pas le dire, mais nous, on peut le dire.
Ben, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils font.
Ils veulent pas le dire. Là.
Le mot de la fin, mon Guillaume?
Oui, ben c'est ça, c'est tout à fait. Je veux dire, il y a devant nous une réalité que sur laquelle, pour des raisons probablement commerciales et d'affaires, là, le Canadien veut pas
arrimer son discours, ouais.
Ben c'est ça exactement, mais c'est clair que c'est ça. L'autre chose, par contre, on peut parler, on peut dire tant qu'on veut que le Canadien veut pas parler de reconstruction publiquement. Pour des raisons commerciales, c'est sûr aussi que pour les joueurs, c'est important de pas trop non plus claironner ce discours-là de la reconstruction, parce que t'as quand même des joueurs dans ton effectif actuel que tu dois garder motivés, t'as des jeunes que t'intègres à cet effectif-là, donc tu veux pas non plus que tes jeunes arrivent dans un club où il y a des vétérans qui se disent, ben, on est dans un club à reconstruction, puis le temps va être long en attendant qu'on gagne, puis donc je pense que ça fait également partie là, des facteurs pour lesquels peut-être le Canadien veut pas dire aussi ouvertement que ça, que c'est un processus de reconstruction.
Je sais qu'on avait dit que le mot de la fin serait à Guillaume, mais juste rebondir très rapidement là-dessus. J'ai parlé au cours de la dernière semaine à deux anciens joueurs des Rangers, Neil Pionk et Kevin Shattenkirk. Et Pionk est plus jeune que Shattenkirk. Et c'est deux joueurs qui ont parlé de la reconstruction des Rangers. Et c'est deux joueurs qui n'avaient pas l'air très malheureux de plus être dans ce processus-là. Alors pour les vétérans, c'est pas évident. Ouais. Surtout que les Rangers sont l'exemple de l'équipe qui a nommé les choses et qui ont dit, bon, mais on y va là-dedans.
Et qui ont accéléré ça parce qu'ils ont le potentiel d'attirer des joueurs. À l'extérieur, comme Panarin, parce que c'est New York.
Ils ont accéléré,
mais ça va plus vite que le Canadien. Mais pas au classement, mais en termes d'acquisition. Là.
Mais le fait de le nommer puis de mettre tout clubé là-dedans, ça a des conséquences aussi sur les joueurs qui sont là. C'est pas.
C'est bon.
Et
c'est quoi? Le mot de la fin, peut-être qu'il n'y en aura pas de fin, mais j'ai envie d'ajouter quelque chose, puis peut-être que ça va être la conclusion, à moins que vous vouliez surenchérir. L'élément le plus précieux, et la raison pour laquelle je ne crois pas au phénomène de tankage, là, je vais vous dire ceci. Les gars, question quiz. Guillaume, t'es un as des quiz. Alors, dis-moi, depuis 1989, il y a eu 31 repêchages. 31, donc, premier choix au total. Et les gars, la question est à tous, mais j'ai une pensée pour Guillaume qui est notre as des quiz. Combien de premiers choix au repêchage ont gagné la Coupe Stanley? Premier choix au total.
Premier au total.
Oui. Je t'ai donné la réponse, Guillaume. Je t'ai donné la réponse en corridor, OK. Sur 31 premiers choix, les gars, il y en a combien qui ont gagné la Coupe? T'as pas le droit de regarder ton ordi, Guillaume. Je te vois à Détroit, là.
Vite de même, je te nomme Kane, Fleury, Ovechkin, Crosby.
Ouais, il y a moins une dizaine.
Peter Forsberg.
Guillaume, t'es solide. T'en as nommé 5, OK? T'en as-tu un autre?
Écoute, je t'ai nommé le Cavalier.
Fleury.
Non, je pense pour le moment, je vais m'en tenir à ça. Ben, ce soit Fleury, Crosby, le Cavalier, Kane, Ovechkin.
Ben, moi, je dis une dizaine maximum.
OK. Mais ben, les gars, sur les 31 derniers choix au repêchage, il y en a 5 qui ont gagné la Coupe, puis Guillaume vient de nous les nommer. Je vous le jure. Fleury, Crosby, Ovechkin, le Cavalier et Kane. Fait la philosophie de tanker, vous savez où ce que je l'ai. Et quand vous regardez autour de ces gars-là, il y a d'autres bons joueurs qui sont greffés à eux autres. Ils n'ont pas gagné ça tout seul. Puis il y en a eu des mauvais premiers choix au total dans ces 31 dernières années-là. Et donc, je finirai avec ceci en disant, moi, ce que je privilégie, puis ce que je vais encourager, puis j'espère qu'on va réussir à maintenir ça chez les Canadiens, c'est que peut-être qu'on se berce d'illusions à travailler dans l'idée qu'on va faire les séries. Mais j'aime mieux que les jeunes, les Kotkaniemi, les Suzuki, compagnie et Fleury, grandissent dans une équipe qui veut qu'une équipe qui dort. Je sais pas si c'est la fin, mais...
Ça, c'est un beau mot de la fin, Mario.
Bon, mais ça a l'air qu'on vient d'arriver à la fin, les gars. Merci beaucoup d'avoir été là. Guillaume, bon séjour à Détroit. Simon-Olivier, bon début d'année. Au plaisir de te revoir bientôt dans nos prochaines sorties de zone. Jérémy, merci beaucoup de ta contribution.
À bientôt. À la prochaine.
Merci à toute l'équipe. Bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao.